Bonjour et bienvenue dans ce podcast Journalisme de guerre, les coulisses. Je m'appelle Lucie Vendelaine et je vous emmène à la rencontre de 6 journalistes. Tous travaillent pour des rédactions belges et sont partis en Ukraine. À Kiev, Lviv ou Boutcha, ils ont rendu la parole aux citoyens qui vivent la guerre. Mais aujourd'hui, c'est eux qui se dévoilent et révèlent l'arrière du décor.
C'est quoi la réalité d'un journaliste de guerre?
Comment ne pas se laisser envahir par la guerre?
Les journalistes sont-ils influencés?
Et l'info, ils la choisissent comment?
Désinformation.
Philippe Debouc, du pôle international, est lui parti dans l'est du pays, dans la région de Transcarpathie. On l'a appelé pour qu'il nous explique ce qu'il a vu sur place. Je m'appelle Pierre Fagnard et vous écoutez Le Grand Angle du Soir.
Bonjour Philippe.
Bonjour Pierre.
Vous êtes donc parti en reportage en Ukraine à l'occasion des 2 ans de l'invasion russe de 2022. Vous vous êtes notamment rendu en Transcarpathie, une région dans le sud-ouest du pays. Pourquoi là-bas?
Parce que c'est une région qui est donc très éloignée du front et c'est un des rares endroits où il n'y a pas de couvre-feu. Tout le reste de l'Ukraine est soumis à un couvre-feu en général de 23h ou minuit jusqu'à 5h du matin. Au début de la guerre, c'était 10h du soir, c'était assez tôt. Et donc, c'est aussi une région où pas mal de déplacés internes ont décidé de s'installer provisoirement en attendant que la guerre soit terminée, que la région dont ils viennent soit libérée et pour ne pas quitter l'Ukraine.
Philippe Debouc est journaliste au pôle international du journal Le Soir. La guerre, il s'y connaît. Le Rwanda, le Vietnam, l'Afghanistan ou encore l'Ukraine sont ses domaines d'expertise. Le conflit russo-ukrainien est une guerre tout à fait exceptionnelle par son caractère médiatique. Jamais une guerre jusque-là n'avait été aussi soumise à l'image, à l'information et à la manipulation qui en découle. Certains, comme Philippe Debouc, la décrivent alors comme une guerre de l'information.
Mon combat journalistique à moi, ben, je ne suis pas le seul. Bon, tous mes collègues du service international sont comme ça, mais c'est de dire qu'arrêtons de relayer des dépêches où on n'a que la version russe. On ne peut pas faire ça. Et donc régulièrement, à l'édition, parce que c'est eux qui éditent les dépêches en général, nous on fait les papiers de fond, mais presque tous les jours, je dois aller faire une remarque en disant, et le pire c'est le week-end, parce que souvent le week-end, il n'y a pas toute la rédaction qui est là, moi je ne suis pas de garde tous les week-ends, mais je vois qu'on relaye plus facilement des dépêches, parce que, oui, alors c'est une dépêche de l'AFP, ok, l'information qui vient de la Russie est sans doute vraiment une information russe, mais est-ce que cette information russe est crédible? Non. Donc ne relayez pas ça si on ne contextualise pas les choses. Ça c'est mon combat que je trouve plus intéressant que d'aller combattre au front. Mais si un jour je dois aller au front, j'irai au front. Mais c'est sur mon terrain qui est le journalisme, c'est de me battre contre la désinformation et cette propagande russe. Parce que l'arme la plus facile, c'est la peur. Et quand on dit se battre contre la désinformation, c'est aussi se battre contre la peur. C'est clair que si je mets nucléaire dans un titre, ça va être l'article le plus lu. Si je mets Poutine déjà comme mot-clé, Poutine menace de lancer une bombe nucléaire, ça va être l'article le plus lu de la journée, mais ce ne sera pas une vraie information.
Philippe Debouc est en charge du dossier du conflit russo-ukrainien depuis 2014, lors de l'annexion de la Crimée par la Russie. Selon lui, c'est l'expertise journalistique qui permet une information vérifiée et décryptée.
Il faut décrypter le langage utilisé par Poutine. C'est ça qui est intéressant. Poutine, là, juste avant le sommet en Suisse, la semaine dernière, la veille, il a sorti un truc. Oui, si l'Ukraine, si l'armée capitule et rend ses armes, alors nous allons, à la minute même, nous allons commencer à négocier. C'est n'importe quoi. Alors, c'est Poutine qui vit dans son monde et c'est quand même l'armée russe qui a envahi l'Ukraine. Et alors, il vient avec un truc si les Ukrainiens capitulent. Est-ce qu'il faut relayer ça ou pas? Donc, moi, j'ai pris une ou deux phrases dans un papier introductif parce que j'ai fait tout un dossier sur ce sommet. Est-ce que les conditions sont réunies pour négocier? 5 critères qui plaident contre et 5 critères qui plaident pour. Et dans le papier introductif, j'ai introduit cette phrase. Donc j'ai contextualisé le truc. Il fallait quand même quelque part la reprendre, mais j'ai aussi pris la réplique ukrainienne qui disait, je ne sais plus ce qu'il disait exactement, mais c'est pas comme ça qu'on va négocier. Donc c'est n'importe quoi. Enfin, évidemment que c'est n'importe quoi. On va pas croire, on peut pas croire de. Quand on voit comment fonctionne Poutine et comment il a été formé au sein du KGB, on peut pas croire ces gens-là.
Pour Philippe Debouc, c'est aux journalistes expérimentés à veiller au travail des dépêches pour accompagner les jeunes journalistes et aider le public vers une vision critique de l'information.
C'est pour ça qu'on ne peut pas traiter la guerre en Ukraine du jour au lendemain quand on ne connaît pas le contexte et qu'on ne sait pas comment ça fonctionne. Mais c'est le cas pour toutes les guerres et tous les conflits et pour toutes les matières aussi. Il faut quand même avoir un minimum de background et pour pouvoir juger. Et ça, c'est le problème à l'édition, c'est que les journalistes qui font ça sont des jeunes journalistes qui n'ont pas toutes les clés en main. Donc c'est pour ça que nous, on est là pour venir leur dire et sinon, enlevez-moi ça ou attendez que je fasse un truc plus analytique ou contextualisé.
Cette expérience, il l'a notamment acquise en se rendant 3 fois en Ukraine, un terrain rendu plus facile d'accès pour les journalistes. Pourtant, il faut garder les yeux et les oreilles bien grand ouverts, car l'organisation des missions ne permet pas de s'attarder.
Oui, quand c'est que l'armée ukrainienne, je ne crois pas nécessairement non plus, mais j'ai quand même plus tendance à croire les Ukrainiens, parce que je me rends compte que depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, ils sont quand même beaucoup plus fiables. Tout ce qu'ils ont dit s'est avéré correct. Tout ce que les Russes ont dit ne s'est pas avéré correct. De tout ce que j'ai vu depuis 2 ans et demi, on peut quand même plus facilement croire les autorités officielles ukrainiennes. Alors, croire que ça ne va pas non plus. Il faut essayer quand même... Ça dépend de quel sujet on parle. Si c'est pour les déplacés internes, je ne crois pas que ce soit spécialement... Là, c'est ce que les gens racontent à différents endroits. Je ne me suis pas contenté d'un seul endroit et de 10 personnes. Donc, on va peut-être cacher des choses, mais je ne vois pas très bien ce qu'on aurait pu cacher. Tout ça mis ensemble, en restant quand même plus que 24 heures sur place, on a quand même déjà... Ça aussi, ça peut être un problème, c'est que quand on passe trop vite quelque part, on voit pas tout, et donc il y a des choses qui peuvent nous échapper. Alors peut-être que j'aurais dû rester 3 jours en plus, peut-être. Mais je crois quand même qu'après 4 jours, à Oujgorod et dans la région, à Moukatchevo aussi, on a quand même vu suffisamment de choses pour se faire une idée assez précise de ce qui se passe.
Aujourd'hui, si quelqu'un propose à Philippe Debouc de partir en Russie, il dirait non. Pour lui, c'est sa manière de conserver sa liberté et son indépendance journalistique.
Alors, moi j'ai la chance de travailler pour un journal indépendant qui n'a de compte à rendre à personne sauf à ses actionnaires, mais qui c'est une famille, qui n'est pas coté en bourse, heureusement. Mais si je travaille dans un média contrôlé par Bolloré, par exemple, ou Dassault, ce serait peut-être différent, pour prendre 2 exemples. Mais oui, je suis convaincu que j'ai pu travailler de manière tout à fait libre, indépendante et déontologiquement, éthiquement, je crois que oui. Maintenant, quelque chose qu'on pourrait nous reprocher ou me reprocher, oui, mais vous n'avez jamais été voir du côté russe, parce que ça, c'est déjà un truc que j'ai entendu aussi. Alors, on a toujours un correspondant en Russie, mais notre pauvre correspondant en Russie, il ne peut pas travailler comme il veut. Il ne faut pas oublier qu'il y a des journalistes en prison, des gens emprisonnés, qu'ils soient russes ou qu'ils soient étrangers. Alors, il y a des lois très strictes en Russie. Moi, si je veux aller faire un reportage en Russie, est-ce que je pourrais travailler dans les mêmes conditions? Est-ce que je verrai des choses intéressantes? Je ne me suis pas trop posé la question, parce que pour moi la réponse est assez claire, et notre correspondant en Russie le confirme, tu ne pourras pas le faire. Lui déjà ne peut pas le faire, en connaissant beaucoup mieux la Russie que moi. Aller dans des territoires ukrainiens occupés par l'armée russe comme journaliste étranger, à moins d'être... Alors il y a quelques médias qui l'ont fait, qui ont accepté de jouer le jeu, en disant qu'ils acceptaient de jouer le jeu, d'être embedded, donc embrigadé par l'armée russe. Et quand on voyait ce qu'ils ont vu, moi, ce qui m'a frappé le plus, c'était une tranchée hyper, hyper propre, hyper clean. Toutes les autres tranchées que j'ai vues sur des vidéos diffusées, que ce soit par des Ukrainiens ou des étrangers ou des Russes même, c'est comme en 14-18, c'est des tranchées, ça ressemble à rien, c'est moche, c'est plein de crasse. Et là, ils avaient visité un truc... Alors, Et puis des tests avec des chars qui tiraient, mais c'était pas vraiment... C'était à 10 km du front. Quel est l'intérêt d'aller voir ça? Donc, moi, j'ai pas envie de jouer ce jeu-là. Même en disant, voilà, on a accepté, ou on a voulu... Même si la démarche vient de nous, est-ce qu'elle serait acceptée? Peut-être que oui. Mais connaissant la façon de fonctionner de l'armée russe, des autorités russes, je vois pas l'intérêt de faire ça. Franchement, je... si c'est juste pour dire oui, on a aussi été voir de l'autre côté, ben non, parce qu'on n'a pas été voir dans les mêmes conditions de l'autre côté. Parce que ça ne fonctionne pas de la même façon. Et ça, ben, il faut l'expliquer. Mais donc quand notre correspondant en Russie fait un papier, on met chaque fois à côté une explication qu'en fait il n'a pas tout à fait les mains libres, qu'il y a des lois très strictes, que s'il ne les respecte pas, il risque d'être poursuivi en justice.
C'est pour restaurer la confiance du public envers les médias que les journalistes comme Philippe Debouc tentent, chaque jour, d'être le plus exact et transparent possible. Qu'ils soient ici en Belgique ou là-bas, en Ukraine. Car la liberté de la presse est finalement l'un des premiers piliers de la démocratie. L'expertise est-elle la seule voie vers la vérité ? C'est ce que Valentin Dauchaud, journaliste au service international du journal La Libre en Belgique, vous explique dans le prochain épisode de Journalisme de guerre, Les coulisses. Un projet réalisé dans le cadre d'un mémoire en journalisme à l'école de journalisme de Louvain-la-Neuve.